Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Bruno Gagnère-Fontani.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
L'actualité écho, décryptée par des acteurs et des chercheurs en sciences sociales, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse au bras de fer fiscal entre l'Europe et les géants du numérique. La taxe numérique européenne, également appelée taxe GAFA, pourrait être adoptée d'ici à la fin de l'année. Voilà ce qu'a affirmé il y a quelques jours le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Après des négociations serrées, l'Allemagne se serait finalement ralliée au projet visant à empêcher que les bénéfices des grandes entreprises échappent à l'impôt. Alors cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du web va-t-elle enfin voir le jour, dépassant les fortes résistances européennes ? Et comment aller plus loin dans la lutte contre l'optimisation fiscale ? L'Europe peut-elle dompter les GAFA en matière de fiscalité ? C'est le sujet de notre discussion du vendredi. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Mireille Bruyère nous parle de l'institution imaginaire de la société de Cornelius Castoriadis. Et pour parler de la bataille fiscale qui se joue aujourd'hui en Europe, trois invités autour de la table. Bonjour Pascal Saint-Amand.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE et vous êtes l'architecte du projet de lutte contre le BEPS, l'érosion des bases taxables et le transfert de bénéfices en français. On va en parler. À vos côtés, Bénédicte Pérol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée à La République En Marche de la 3e circonscription de l'Allier, membre de la commission des finances et ancienne avocate fiscaliste. Et en septembre, vous avez rendu un rapport d'information au gouvernement plaidant pour une taxation nationale des groupes numériques dans le cas où le projet de taxe GAFA n'aboutirait pas au niveau européen. Et enfin, Manon Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale et d'inégalité pour Oxfam France et enseignante à Sciences Po Paris en droit de l'homme. Et vous avez écrit plusieurs rapports sur l'évasion fiscale et les inégalités. Alors d'abord, est-ce qu'on peut commencer par évaluer au niveau mondial ensemble le coût de l'optimisation fiscale des entreprises? C'est évidemment très difficile, mais est-ce que les SwissLeaks, les Panama Papers et autres fuites ont permis aujourd'hui d'avoir une vision plus précise, Pascal Saint-Amand?
Les fuites, pas vraiment. Les fuites, elles montrent l'ampleur du phénomène. Après, les chiffrages, ils sont compliqués. Il y a un chiffrage à peu près convergent. Alors, il y a une fourchette assez large entre 250 milliards d'euros par an et 500 milliards d'euros par an. Zucman, qui est un économiste français à Berkeley, arrive avec ce chiffre-là. Nous, l'OCDE, on a dit entre 150 et 240 milliards d'euros. C'est sans doute un peu sous-estimé. Mais là, on parle de l'optimisation fiscale des entreprises. Et puis, il y a un autre volet où là, les chiffrages, à mon avis, sont très fantaisistes. Mais c'est des grosses sommes. C'est la fraude fiscale des partis. Ce que l'on sait, c'est pas le sujet de l'émission, mais les progrès qui ont été faits récemment ont montré que le passage à l'échange automatique de renseignements, c'est-à-dire la fin du secret bancaire en Suisse et ailleurs, on a d'ores et déjà collecté près de 100 milliards d'euros d'impôts de gens qui avaient des comptes à l'étranger qui les ont déclarés. Donc on voit que tout ce qui est offshore, c'est des montants très élevés, et comme c'est offshore et un peu opaque, on connaît pas précisément le montant.
Alors les entreprises du numérique seraient les championnes de l'optimisation fiscale. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon paieraient en moyenne 9% d'impôts contre 23% pour les autres sociétés. Comment réussissent-elles à passer entre les mailles du filet, Manon Aubry ?
Alors, c'est très simple. Pour certaines entreprises, d'ailleurs, on l'a vu dans le cas d'Apple, c'est même proche de 0% en Irlande. Et d'ailleurs, l'Irlande avait été condamnée par la Commission européenne pour offrir cet avantage fiscal à Apple. Mais pour bien comprendre comment aujourd'hui se déroule l'évasion fiscale, et en particulier pour les entreprises du numérique, c'est qu'on a un système fiscal au niveau international qui a été érigé dans les années 20, au début du 20e siècle, à une époque où les échanges économiques étaient très simples. C'était d'une entreprise A à une entreprise B, on s'échangeait un service ou un produit au prix du marché. Aujourd'hui, non seulement l'essentiel des échanges économiques ont lieu au sein d'une même entreprise multinationale, plus de 60%, mais en plus, la notion de la création de la valeur, qu'est-ce qui a été créé et qui devrait être taxé, a été encore plus bouleversée par les entreprises du numérique. Concrètement, le nombre d'utilisateurs de Google, de Facebook, etc. C'est pas forcément cela qui apparaît au bilan comptable d'une entreprise et qui, du coup, doit être taxé. Et la conclusion, elle est assez simple. C'est que notre système fiscal tel qu'il a été construit au début du XXe siècle n'est plus adapté à la réalité des échanges économiques d'aujourd'hui. Et c'est de ce système fiscal dont se jouent les grandes entreprises pour payer le moins d'impôts possible.
La question de la création de la valeur, effectivement, elle est centrale, Bénédicte Pérol, parce qu'on a des entreprises du numérique qui ont des business models très différents.
Absolument. Peut-être juste une petite rectification. Je ne suis pas avocate fiscaliste, mais juste juriste fiscaliste. Donc, je n'ai pas passé le diplôme. Je travaillais en entreprise. Oui, la création de valeur aujourd'hui, et Manon vient de le rappeler, c'est-à-dire on est passé dans un monde où tout était matériel à un monde plutôt immatériel, avec une création de valeur qui vient par des nouveaux actifs, des logiciels, des algorithmes aujourd'hui. Aussi, les utilisateurs participent à cette création de valeur. Donc, on voit que notre monde est bouleversé. Et notre fiscalité, notre droit fiscal, nos conventions ne sont pas adaptées aujourd'hui à la qualification juridique, finalement, de ces actifs, de cette création de valeur. Donc, aujourd'hui, l'enjeu majeur, à mon avis, pour l'OCDE, pour l'Union européenne et pour les États de manière générale, c'est d'identifier et de travailler à l'identification de cette création de valeur.
Alors ça, c'est le premier point. Le second, c'est peut-être toute cette créativité qui est mise en œuvre par les entreprises pour justement aller dans le sens de l'optimisation fiscale. On parle de double irlandais, de sandwich hollandais. Il y a toute une série de techniques qui existent, Pascal Saint-Amand.
Oui, alors pour répondre à votre question, c'est que les entreprises dites du numérique, les Apple, Google, Facebook, Amazon, Airbnb, on pourrait citer les autres, ont eu tendance à être encore plus agressives que les autres, qui étaient déjà très agressives. Donc le cas d'Apple, c'est que l'ensemble de la propriété intellectuelle était domiciliée au milieu de nulle part, littéralement. Juridiquement, c'était une société qui était apatride. Et donc on voit que par l'utilisation de toutes les défaillances du système fiscal international, ces entreprises ont été plus agressives que les autres. Ceci étant, et comme l'ont dit les deux intervenantes, c'est l'ensemble de l'économie qui a changé. Et il ne faut pas penser qu'on aurait un secteur qui serait le numérique et pas le reste. C'est l'ensemble de l'économie qui est passé vers ce qu'on appelle l'immatériel. Où est la création de valeur ? C'est plus dans les usines où on fabrique, c'est dans le design d'une marque. C'est dans des choses qu'on peut finalement bouger assez facilement. Et donc, on se trouve confronté à un double phénomène. Une fiscalisation, une planification fiscale très agressive des entreprises. Et ça, je pense qu'on a quand même un peu jugulé le problème avec le projet BEPS dont on parlait, qui est la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. En gros, on ne peut plus mettre sa propriété intellectuelle aux Bermudes où il se passait rien, où il y avait zéro fiscalité. Puis il y a un autre phénomène qui est comment est-ce qu'on peut appréhender la taxation d'entreprises qui sont plus présentes physiquement, où on passe à une économie de services largement, pour un Google, mais aussi demain pour les entreprises de voitures, qui fabriquent des voitures, comme Mercedes ou Peugeot, où la création de valeur risque d'être dans le service donné à l'automobiliste plus que dans la vente du bien. Et donc là, il y a un vrai défi qui est moderniser la fiscalité internationale pour faire face aux défis de la nouvelle économie.
Vous le disiez, Manon Aubry, en août 2016, Apple s'est fait épingler par la Commission européenne en raison de la faiblesse de son taux d'imposition en Irlande. On écoute Margrét Vestager, commissaire européenne à la concurrence et figure de proue du combat contre l'optimisation fiscale des multinationales.
Deux décisions fiscales accordées par l'Irlande ont artificiellement réduit le fardeau fiscal d'Apple depuis plus de deux décennies, en violation des règles relatives aux aides d'État. Apple doit maintenant rembourser les aides d'un montant de 13 milliards d'euros, plus les intérêts. Les États membres de l'UE ne peuvent pas accorder des avantages fiscaux indus à certaines compagnies en particulier, peu importe si elles sont européennes ou étrangères, ou si ce sont de petites entreprises ou des filiales de multinationales.
Margrét Vestager, en 2016, Apple a versé le mois dernier sur un compte bloqué les 13 milliards d'euros que l'entreprise doit à l'Irlande. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire alors, Manon Aubry ?
J'aimerais bien qu'on puisse parler d'une victoire, mais malheureusement, je pense que c'est difficile de conclure une victoire pour plusieurs raisons. La première, c'est que Apple a mis plus de 2 ans à redonner cette somme et ce montant, et c'est parce que l'Irlande contestait la décision. Et donc la deuxième raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une victoire, c'est que dans cette affaire, c'est bien l'Irlande qui a été condamnée et non Apple. Et on touche là aux limites du droit européen, parce que il faut saluer l'action de Margrét Vestager, Vestager. La raison pour laquelle la Commission européenne a pu condamner l'Irlande, c'est sur la base du droit à la concurrence. En d'autres termes, c'est parce que l'Irlande a offert un avantage fiscal qu'elle n'offre pas à d'autres entreprises. Et c'est donc ce qu'elle a appelé une aide illégale d'État. Le droit européen permet de condamner pour ça. Mais les limites de cet exercice sont le suivant. Si demain, l'ensemble des États, ou voire même l'Irlande, accorde cet avantage fiscal à l'ensemble des entreprises, il n'y a plus de concurrence déloyale. L'ensemble des entreprises bénéficient d'un taux d'imposition zéro. Et là, la bataille sera perdue. Et donc, je pense qu'il faut se servir du cas d'Apple comme un levier et comme un cri d'alerte pour montrer que quand une entreprise arrive à payer 0,001% d'impôt, c'est complètement irrationnel et on marche sur la tête. Par contre, ce n'est pas suffisant et ça montre à quel point il faudra faire évoluer l'ensemble du droit européen et reconcevoir la manière dont on impose les grandes entreprises multinationales, sinon la bataille sera perdue.
Alors justement, venons-en à cette fameuse taxe GAFA pour lutter contre l'optimisation fiscale des entreprises du numérique. La Commission européenne a donc proposé en mars dernier d'instaurer un taux d'imposition de 3% sur les revenus de ces entreprises générées en Europe. Alors en quoi consiste cette taxe, quelles sont les entreprises visées, Bénédicte Pérol?
Alors cette taxe, déjà, dans cette proposition du mois de mars de la Commission européenne, il y a deux directives. Et c'est très important de noter que cette taxe, 3% sur chiffre d'affaires, en français, taxe sur les services du numérique, ce n'est qu'une solution de transition avant la directive plus long terme, qui sera certes plus difficile à négocier, qui concerne l'établissement stable virtuel, sur lequel travaille d'ailleurs profondément aussi l'OCDE, mais ça, c'est déjà un point extrêmement important.
C'est important de dire qu'elle sera temporaire, mais pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour mettre en place cette taxe temporaire.
Alors, pour venir plus techniquement sur la taxe, elle concerne qui ? Elle concerne les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, dont 50 millions d'euros au sein de l'Union européenne. Donc, c'est déjà les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires assez important. C'est une taxe qui a pour assiette les revenus qui sont engendrés par les services du numérique. Donc là aussi, elle est quand même très ciblée. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez innovant parce qu'on a l'habitude de taxer normalement le bénéfice. Et là, on vient taxer le chiffre d'affaires. Donc, on change un peu la conception aussi de notre droit fiscal, mais on considère aujourd'hui que c'est le moyen, on va dire, le plus facile pour pouvoir asseoir une assiette qui puisse ramener des assiettes au sein de l'Union européenne. Et ensuite, il y aura une répartition entre les États sur la base des utilisateurs, en fait, du lieu où seront les utilisateurs qui généreront cette taxe.
Alors le fait que cette taxe est censée s'appliquer sur le chiffre d'affaires et non sur les profits, c'est un argument qui est utilisé par les détracteurs de la taxe pour dire qu'il s'agit d'un mauvais projet. Et il y a des fiscalistes qui s'accordent à dire que le problème, c'est que c'est le consommateur qui risque d'en supporter le coût, Pascal Saint-Amand.
Alors oui, innovant, certes, mais c'est vrai que taxer le chiffre d'affaires, c'est quand même ce qu'on fait de plus stupide économiquement. En même temps, pour contrebalancer cette critique, les règles internationales actuelles ne permettent pas aux États de taxer les profits parce que toutes ces conventions, tout ce système fiscal international dont on a parlé, ils permettent pas ça. C'est pour ça qu'il faut le rénover. D'où la question des Européens. Qu'est-ce qu'on fait en attendant de pouvoir le rénover avec les États-Unis, la Chine et les autres, ce qui risque de prendre un peu de temps. Et donc, on fait ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire un truc qui est pas très intelligent économiquement, mais qui au moins envoie un message que quelque chose se passera. Un commentaire néanmoins par rapport à votre question sur la décision d'Apple. On verra si c'est une victoire quand la Cour de justice des communautés européennes aura tranché du cas, parce que tout ça est encore en cours. Donc il se peut que ce soit finalement abandonné. Second point, et là pour le coup c'est positif, c'est que jusqu'à la réforme fiscale américaine, ces entreprises, du fait de la planification fiscale, du fait du double sandwich irlandais qui est attaqué par la commission, je pense à juste titre, du fait de toutes les techniques, ces entreprises avaient un taux effectif d'imposition de 2-3% extrêmement faible. La réforme fiscale américaine qui est passée en décembre dernier, qui a plein de défauts d'un côté mais qui a aussi une application de la lutte contre la planification fiscale, fait que ces entreprises paieront au moins 13%. Et donc ce à quoi on arrive aujourd'hui, 13% sur leurs profits réalisés en dehors des États-Unis. Donc elles payaient zéro jusqu'à présent parce que le système américain était cassé. Dorénavant, elles paieront 13%. D'où la question pour les Européens qui est, qu'est-ce qu'ils veulent? Que ces entreprises payent au moins quelque chose, mais c'est fait du fait de la réforme fiscale américaine? Ou est-ce que ces pays européens veulent en fait que ces entreprises payent là où elles font leur business? c'est-à-dire en Europe. Ce qui pose une question supplémentaire, et j'espère qu'on voit bien le lien, qui est, si on veut taxer parce qu'il y a du business chez nous sans forcément de présence physique, Google, Apple et les autres n'ont pas de présence physique, ben c'est qu'on veut taxer parce qu'on est un pays de marché. Et pour trouver une solution globale, il faudrait être cohérent et appliquer ce nouveau principe que si on veut taxer une entreprise là où elle est, où elle réalise du chiffre d'affaires, là où elle a des clients, il faut changer les règles, mais pour tous les secteurs et pas seulement le numérique. Et c'est là que les Européens se divisent. C'est pourquoi vous avez l'Irlande, la Finlande, la Suède, le Danemark qui sont vent debout contre la directive européenne, ce projet de directive, et l'Allemagne qui est extrêmement sceptique et qui pour l'instant n'a pas encore donné le feu vert parce qu'ils disent mais on veut pas finalement rouvrir sur le débat. Pas grave si on taxe pas Google, d'autant qu'ils payent 13% aux États-Unis, mais on veut pas que les Chinois taxent nos entreprises.
On va reparler de ces différentes résistances européennes. Mais effectivement, vous parliez de cette mesure de la réforme fiscale de Donald Trump. Elle aurait permis au fisc américain de récupérer cette somme gigantesque de 64 milliards de dollars auprès d'Apple, de Microsoft, de Google, de Facebook. Et toute la question, comme commençait à le dire Pascal Saint-Amand, Manon Aubry, c'est pour les Européens de savoir s'il restera une base imposable sur les profits des GAFAM après que les États-Unis se seront servis.
Je pense qu'on peut voir le problème de deux manières. Soit on est dans une nouvelle forme de guerre qui ne dit pas son nom, qui est une guerre fiscale, et donc on se vole les assiettes fiscales, donc il y a un gâteau et chacun se vole sa part du gâteau. Ou faut le voir de manière de l'autre côté, de manière coopérative, comment de manière conjointe on peut augmenter la taille du gâteau. Et c'est le sens des travaux qui sont menés au niveau international. Mais il faut être vigilant si, en essayant d'augmenter collectivement la part du gâteau, peut y avoir des passagers clandestins qui essaient de se servir et au passage de récupérer la plus grande part possible du gâteau. Et donc cette image du gâteau ou autre chose, je pense qu'elle est assez représentative aujourd'hui de l'enjeu de récupérer ce qu'on appelle l'assiette fiscale, donc la somme de l'argent à imposer. Et le danger au niveau européen, pour revenir sur la fameuse taxe à 3%, c'est qu'on se concentre sur une solution de court terme qui ne règle pas fondamentalement le problème. Elle ne règle pas fondamentalement le problème parce que déjà, en pratique et de manière technique, pas toute l'activité des géants du numérique sera taxée, notamment ne sera pas taxée l'activité qu'on appelle du e-commerce, la vente en ligne. Typiquement, Amazon ne sera que très peu concernée.
Et c'est Apple et Microsoft seront
Apple
également en grande partie
et Spotify. Donc c'est même pas une taxe GAFA, faut enlever les deux A. C'est le premier danger. Et puis le deuxième danger, de manière plus globale, c'est qu'on mette toute notre énergie et qu'on se concentre sur des solutions de court terme, comme si on voulait mettre des pansements à un patient victime d'une hémorragie sans traiter le problème de fond et qui est la cause de cette hémorragie. Et je pense que le rapport qu'a fait Bénédicte Pérol à l'Assemblée nationale va dans la bonne direction, puisque une des conclusions du rapport était de donner une limite dans le temps à cette solution de court terme, en disant au bout de 2 ans maximum, si je me trompe pas, on doit passer à une solution de long terme, parce que si on veut prendre à bras le corps le problème de l'évasion fiscale, il faut repenser en profondeur le système fiscal pour l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Donc il est essentiel de dépasser cette approche de court terme.
Par ailleurs, Pierre Moscovici a beaucoup insisté sur le fait que ce n'était pas une taxe anti-GAFA, une taxe anti-américaine, et que 120 à 150 entreprises devraient être concernées. L'Europe redoute de nouvelles taxes douanières de la part des États-Unis, Bénédicte Pérol, et ça explique aussi les réticences allemandes par rapport à cette taxe de 3%?
Alors, les réticences allemandes, elles sont au-delà. Il y a certes des questions géopolitiques, mais il y a aussi d'autres problématiques, sont notamment le fait que le secteur de l'industrie d'une automobile puisse être concerné par cette taxe à 3%. Mais comme d'autres entreprises en France, nous avons des pépites qui pourraient être concernées aussi par cette taxe. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, ce n'est pas uniquement, on a appelé la taxe GAFA, ce qui a pu agacer un petit peu effectivement les États-Unis, alors que déjà, on n'a pas les deux A et qu'au final, elle touche aussi des entreprises européennes et des entreprises asiatiques, dont la proportion, c'est 50% d'entreprises européennes, un tiers européenne à peu près et un tiers d'asiatique. Donc il faut être très prudent dans les messages qu'on envoie quand on parle de cette taxe-là, parce qu'au final elle peut être utilisée effectivement comme un instrument géopolitique. Et moi, dans le cadre de mes auditions, j'ai pu rencontrer Facebook et Google, et concrètement c'est effectivement comme ça que ça a été perçu du côté de l'administration fiscale américaine. Donc au final, il faut être prudent, parce que c'était pas l'objectif de départ. Nous, l'objectif, c'est de montrer que l'Union européenne est en capacité d'agir et de montrer aux Européens que l'Union européenne peut apporter une réponse, et oui, dans l'idéal, une réponse rapide, encore une fois, qui est une réponse urgente d'ici fin 2018, ça doit être acté. Sinon, ça sera la démonstration que l'Union européenne, encore une fois, recule toujours plus loin la réponse à cette problématique qui est le financement de nos écoles, de nos infrastructures, etc. etc.
La France aurait réussi à convaincre l'Allemagne en inscrivant dans le projet qu'il s'agit d'une taxe temporaire, mais il reste encore de nombreux pays à convaincre, à commencer par l'Irlande et tous les petits pays européens qui, justement, multiplient les avantages fiscaux pour attirer des capitaux, Pascal.
Alors, pas tout à fait, je dirais. L'Allemagne, j'ai pas vu de signaux positifs de l'Allemagne. Donc, je suis ravi que la France l'annonce pour l'Allemagne, mais j'ai pas encore vu.
Il y aurait une petite phrase prononcée par le ministre des Finances, Olaf Scholz, qui aurait dit qu'il était ouvert à cette possibilité.
Je l'ai pas vu. J'étais à Vienne au conseil ECOFIN informel il y a quelques semaines. On espère, je crois, les uns et les autres, en tant qu'Européens, que l'Allemagne suivra la France dans ce combat. Et la France a mené ce combat pour avoir une directive. Les petits États opposés sont pas tellement en dehors de l'Irlande, qui clairement défend ses intérêts parce que c'est le siège social de très nombreuses de ces sociétés. Ils ont, je sais pas, 6000 employés de Facebook, 8000 employés de Microsoft ou Apple. Mais vous avez des petites économies du nord de l'Europe, la Suède, le Danemark et la Finlande, qui sont pas des paradis fiscaux. Enfin, c'est des pays qui taxent même plus que la France, qui ont un ratio produit intérieur brut impôt supérieur à la France. Et ces pays sont très concernés, sont très inquiets de ce que les solutions de long terme, qu'on veut tous, on espère qu'il y aura peut-être une solution de court terme pour essayer d'envoyer un message, mais le vrai sujet, c'est une solution de long terme. Et comme je l'indiquais, le sens d'une solution de long terme, c'est sans doute se partager les droits d'imposer différemment. Faire en sorte que, lorsqu'il n'y a pas d'activité dans un pays, pas d'activité physique, il y a du business, mais il n'y a pas de présence physique, on puisse taxer quand même. On va prendre un exemple, Netflix. Je crois que beaucoup de vos auditeurs sont sans doute abonnés à Netflix, ou pas d'ailleurs, parce que l'offre culturelle n'est pas absolument géniale. Mais Netflix a zéro employé en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour taxer Netflix? Ils ont juste un marché, ils payent la TVA, ils paieront peut-être le 3% demain. Mais comment on fait pour taxer? Donc là, il faut changer la règle. Mais une fois qu'on a changé la règle, si on dit ils sont présents physiquement, même sans l'être, ils sont taxables, et que le profit qu'on alloue à l'activité de Netflix en France est de 2 ou 3%, qui en général est la moyenne de profit dans les activités dites de distribution. Pour les chaussures, Nike, c'est exactement la même chose. Et les pays vont dire, bah, on n'a pas fait tout ça pour récupérer 2 ou 3% de profit et donc prendre 25% d'impôt sur 3% de profit. Donc on veut plus en fait sur Facebook, on veut plus sur Apple, on veut plus sur Netflix. Et les Américains disent aujourd'hui, vous avez raison, il faut prendre plus, mais il faut prendre plus aussi sur Nike et les autres, et il faut que nous, aux États-Unis, on prenne plus 10 ou 20% sur Louis Vuitton et les autres. Mmh. Et c'est là que ces petites économies du nord de l'Europe, j'y reviens, se disent, oulala, on ne veut pas, nous qui sommes des petits marchés, qui sont des gros exportateurs, on veut pas que les économies de marché, là où il y a les consommateurs, récupèrent des droits d'imposer. Et c'est là que l'Allemagne aussi dit, oulala, on veut pas que les Chinois taxent nos entreprises, et que les Français sont encore un peu, comment dire, dans une sorte de schizophrénie qu'ils n'ont pas réglée.
Alors, il y a une méfiance. En effet, de la Suède, du Danemark ou de la Finlande, et peut-être que c'est l'Irlande en effet qui s'annonce comme le pays le plus difficile à convaincre. Mais alors, étant donné qu'en matière fiscale il faut l'unanimité au Conseil européen, est-ce que cette taxe a-t-elle des chances de voir le jour, et a-t-elle des chances de voir le jour avant fin décembre, comme c'est annoncé à Manon Aubry?
Alors malheureusement, nous, les ONG, nous sommes rarement dans les petits papiers des négociations au niveau européen. Certains groupes qui sont plus considérés comme des lobbies ont davantage accès que nous, mais on touche là à la difficulté des décisions fiscales au niveau européen. Vous l'avez rappelé, c'est très important. La question fiscale, l'ensemble des sujets fiscaux nécessite l'unanimité des 28, bientôt 27 États membres pour aboutir à une décision. Et donc ça veut dire que concrètement, il faut se mettre d'accord autour de la table avec l'Irlande, avec les Pays-Bas, avec Malte, avec le Luxembourg. Alors, il y a un certain Jean-Claude Juncker qui jouait un rôle très important au Luxembourg et maintenant à la tête de la Commission européenne, qui a dit qu'il fallait dépasser cette règle de l'unanimité. J'aimerais bien, mais on en est encore loin, malheureusement. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, il faut être honnête, à prendre une décision à 27 quand on doit la prendre avec des paradis fiscaux. Maintenant, vu l'urgence de la situation, vu l'urgence des sommes qui sont en jeu, vu l'urgence des attentes citoyennes après la multiplication des scandales d'évasion fiscale, j'ose à penser et espérer que les responsables politiques auront du courage et, au besoin, trouveront d'autres formes de collaboration à travers différents États de l'Union européenne Je sais que notamment c'était une idée chère à Thomas Piketty de faire collaborer la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qui représentent plus de 70% du PIB au sein de l'Union européenne et dire bah si on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble, essayons de repenser le système fiscal à notre échelle pour essayer d'enclencher une dynamique positive et on l'espère aussi pousser dans la bonne direction les négociations au niveau international qui sont indispensables, ça c'est sûr.
La France a été assez volontaire dans cette taxe. Alors Pascal Saint-Amand parlait de schizophrénie de la position de la France, mais est-ce que la France pourrait réussir tout de même à convaincre ses partenaires européens? Vous pensez que cette taxe pourrait exister, Bénédicte Pérol?
Oui, alors Pascal Saint-Amand, je crois, parle de schizophrénie française quand il évoque le sujet de est-ce que on doit revoir les règles internationales à la lumière de l'état de consommation, l'état de marché versus l'état qui crée de la valeur. Donc c'est un autre niveau. Et effectivement, et moi j'invite dans mon rapport à ce que la France réfléchisse, est-ce qu'elle a intérêt à être un état de consommation aujourd'hui? Peut-être, mais ça dépend des secteurs d'activité. Pour les services du numérique, oui. Je suis pas persuadée que nos grandes entreprises de maroquinerie, par exemple, qui vendent beaucoup de produits en Chine, aient intérêt pour le coup à ce que les règles internationales soient basées sur l'état de consommation. Pour revenir au leadership de la France dans ces négociations au niveau de l'Union européenne, effectivement, la France est extrêmement leader, tient une position ambitieuse. Elle a autour d'elle des États, et vous l'avez mentionné, comme l'Irlande, qui sont plutôt réticents. Mais le ministre Bruno Le Maire évoque souvent justement ce cas-là en disant que on essaye de mettre d'autres sujets de négociation sur la table, pas uniquement des sujets fiscaux, mais je suis persuadée...
Le Brexit, par exemple, qui pourrait entrer en ligne de compte.
Par exemple, absolument. Et il y a aussi un élément important dans les dernières négociations, il y a le groupe de Visegrad qui a fait une annonce en disant qu'elle soutenait de manière forte aussi cette taxe. Alors après, il y a toujours des petites négociations sur l'assiette, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, la France tient le bon bout, et Bruno Le Maire l'a rappelé, c'est fin 2018 l'objectif.
Hey everybody, I am talking to you. I've been telling you, Josh, but this is not your true. I got them Pac-Man blues. About me and you, what the world are we gonna do? My money's gone, my phone is gone. The way things look, how can I be here alone? I got to take baby. What are we gonna do?
Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
C'était Tax Paying Blues de JB Lenoir. On parle de la taxation des entreprises du numérique avec Pascal Saint-Amand, Bénédicte Pérol et Manon Aubry. Alors l'OCDE a pris un certain nombre, a émis un certain nombre de recommandations depuis plusieurs années. Pascal Saint-Amand, c'est l'idée qu'il faut des mesures à une échelle la plus grande possible, parce que l'un des risques, c'est que les multinationales délocalisent leur siège hors d'Europe dans des pays émergents, par exemple. Il faut des accords à un niveau international.
Les acteurs économiques, maintenant privés, sont globaux. Et les gouvernements sont restés locaux. C'est tout le problème. La souveraineté, la souveraineté fiscale, elle est nationale. C'est le Parlement qui vote la loi fiscale. Et c'est quelque chose qui est assez indépassable. C'est pour ça que dans l'Union européenne, on a l'unanimité et pas la majorité qualifiée. Et ça risque de très difficile de passer à la majorité qualifiée pour cette question de souveraineté. Donc, si on doit trouver des solutions, il faut que tout le monde se mette d'accord. Parce que si vous dites, faisons ça dans l'Europe, les Luxembourgeois et les Irlandais vont vous dire, oui, ça va partir en Suisse. Si vous mettez la Suisse qui est à l'OCDE, et pas Singapour, on va dire ça va partir à Singapour. Donc il faut une solution globale. Donc ce qu'on a fait depuis 2012-2015, on a développé un plan d'action de lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices et la planification des sociétés. C'est en quelque sorte coller des sparadraps sur le système international, mais c'était urgent parce que l'ensemble des profits étaient aux Bermudes. Il y avait, pour vous donner un ordre de grandeur, 2600 milliards de dollars de profits des sociétés américaines localisés aux Bermudes. 2600 milliards de dollars. Et à l'époque, le taux d'impôt sur les sociétés était 35%. Donc vous imaginez le montant d'impôts perdu par les Européens et les États-Unis. Donc ça, je pense qu'on a réparé et aujourd'hui, les structures aux Bermudes, elles disparaissent. Mais les entreprises américaines ou européennes se disent où est-ce qu'on localise notre profit ? On peut plus le mettre aux Bermudes à 0%, mais on va le mettre en Irlande à 13%. Et comme il n'y a pas de lutte contre ce qu'on appelle la concurrence fiscale entre États, les Français ou les Allemands qui ont un niveau de fiscalité plus élevé ne peuvent pas imposer aux autres États de monter, ou on pourrait dire l'inverse, hein, on est très français là, mais on pourrait dire les Irlandais pourraient avoir envie d'imposer leur taux d'imposition aux autres. Mais on a cette difficulté de se dire, même si après la réforme fiscale américaine, Google va payer 13% sur ses profits hors États-Unis, ben on voudrait en récupérer un peu plus. Et donc vous avez cette bataille entre États qui est comment est-ce qu'on se partage le gâteau qu'évoquait Manon Aubry.
Alors il y a une convention fiscale multilatérale qui a été signée en juin 2017 et qui cherche justement à lutter contre l'optimisation fiscale agressive des entreprises. Qu'est-ce qu'elle permet, cette convention, aujourd'hui, à Pascal Saint-Amand ?
Alors, dans le cadre des travaux d'IBEPS, hein, on va utiliser cet acronyme anglais qui était lutte contre l'évasion fiscale des entreprises, on avait 15 mesures. Parce que les entreprises, elles utilisaient plein de leviers. Des produits hybrides, à la déduction des intérêts, je vous passe le jargon technique, mais il y avait plein d'outils qui étaient utilisés. Et on a essayé de traiter tous ces outils. Sauf que, une fois que vous avez du droit mou à l'OCDE, on est de mou à l'OCDE, on ne peut pas imposer des règles parce que les pays viennent mais ils ne sont pas obligés de les prendre en compte. Donc on a mis en place une dynamique politique avec le G20 en disant il faut changer les règles nationales. Donc l'Union européenne a adopté la plupart de nos mesures. Et puis il y a un problème, c'est qu'il existe des traités fiscaux, c'est des traités internationaux. Sauf qu'un traité, ça prend 3-4 ans à négocier. La France, elle en a 120. Vous imaginez s'il faut changer les 120 traités. Alors pourquoi changer les traités ? Je donne un exemple très simple à comprendre. Pour investir, si vous êtes français en Inde, si vous investissez directement en Inde et que vous vendez votre société en Inde après quelques années, vous allez payer de l'impôt en Inde et de l'impôt en France. Si vous passez par l'île Maurice en raison des traités entre la France et l'île Maurice et entre l'île Maurice et l'Inde, vous payez des impôts ni en Inde, ni en France, ni à l'île Maurice parce qu'il n'y a pas d'impôt à l'île Maurice sur ce type d'investissement. Et pour mettre fin à ce type de schéma qui coûte énormément d'argent, l'île Maurice, 25% des investissements directs en Inde, ça vient de l'île Maurice, donc il y a énormément d'argent en jeu, il faut modifier les conventions fiscales. Ça aurait pris 30 ans. Donc on a fait pour la première fois, je crois, dans l'histoire juridique, une convention multilatérale qui change immédiatement toutes les conventions fiscales bilatérales. Ça a été signé en 2017, ça entre en vigueur à la fin de l'année, elle est déjà entrée en vigueur pour 5 États, ça changera plus de 2000 conventions fiscales assez rapidement. Donc c'est une illustration de ce qui a été fait, mais qui ne traite pas de l'économie numérique, parce que les États-Unis s'y étaient opposés, et de cette question plus fondamentale de comment est-ce qu'on se met d'accord pour se partager les droits d'imposer.
Concrètement, un article va s'appliquer seulement si les deux pays en ont adopté la clause, et il faut aussi souligner que les États-Unis ont refusé de signer cette convention multilatérale, donc ça complique la mise en œuvre de ces mesures.
C'est regrettable, évidemment. Ceci étant, tous les schémas d'évasion fiscale, ils ne sont pas directs France-États-Unis, ils passent tous par l'Irlande, ou par les Pays-Bas, ou par le Luxembourg, ou par la Suisse, Suisse ou par Singapour, pour les nommer précisément. Et toutes ces juridictions-là ont signé la convention multilatérale. Donc le fait que les États-Unis soient absents, en fait, ce n'est pas un drame de cette convention, même si ça pose des problèmes plus généraux de l'engagement des États-Unis dans la communauté internationale.
L'OCDE avait publié ses recommandations en 2015 et elle peut déjà compter notamment un succès à son actif. L'Europe qui a regagné plus de 3 milliards d'euros de recettes de TVA en appliquant donc ses recommandations sur les ventes en ligne. Donc désormais, le taux de TVA est appliqué et celui du pays de consommation et pas de facturation. Et l'idée, c'est encore d'étendre cette mesure à l'ensemble du e-commerce d'ici à 2021. C'est une directive adoptée en décembre dernier. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui avancent, Bénédicte Perrol.
Oui, il y a beaucoup de choses qui avancent et moi je tiens à saluer ici à ce micro effectivement le travail de l'OCDE. Hein. Ces travaux BEPS qui ont commencé il y a déjà quelques années maintenant ont vraiment remis sur la table et collectivement et au niveau international, c'est ça qu'il faut mettre en avant, la nécessité de mettre en place des clauses anti-abus et des dispositifs mais mondiaux pour répondre à ces problématiques-là. Effectivement, l'Union européenne a pris plusieurs directives en la matière qu'on continue à transposer. On appelle ça les directives ATAD notamment. On va poursuivre leur transposition notamment dans ce budget là 2019. Je pense notamment au régime des brevets français qui était considéré comme dommageable et on va appliquer le principe du nexus. Donc vous voyez, c'est des choses qui effectivement continuent dans le temps. La France, et moi j'étais rapporteur pour avis de l'autorisation de ratification de la convention multilatérale aussi. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en œuvre. Donc il faut aussi faire preuve de patience dans les résultats qu'on attend parce que c'est un processus long.
Alors, il y a une autre mesure qui a été préconisée par l'OCDE, c'est le reporting pays par pays que devront donc transmettre les grandes entreprises aux administrations fiscales qui se les échangeront ensuite. C'est une mesure qui vous paraît prometteuse, elle est tout juste en train de se mettre en place.
Pardon, juste avant que Manon réponde, Pascal, juste une chose, c'est pas que ça va se passer, c'est que ça s'est passé. Hein, c'est pour être factuel.
J'allais le dire.
Voilà, ouais, il y a plus de 9000 entreprises qui ont déjà rempli le reporting pays par pays et ça a été échangé par tous les pays qui sont partis à l'exercice. Hélas, pas suffisamment encore, mais pardon, Manon.
Ça en effet commencé à être mis en vigueur dès l'année 2018. Donc, il y a les premiers échanges d'informations qui se déroulent. Pour nous, c'est loin d'être suffisant pour deux raisons. La première, c'est que, et c'est une question que je serais curieuse de voir, quel suivi va être fait côté politique, c'est quelle utilisation des données va être faite par les administrations fiscales. Parce que quand on a posé la question au service de Bercy, au ministère des Finances en France, sur quel dispositif allez-vous mettre en place côté administration fiscale pour traiter ces données, essayer de repérer des transferts artificiels de bénéfices, concrètement de l'évasion fiscale, et quelle suite allez-vous donner, on reste relativement dans le flou. Et puis pour nous, la deuxième plus grande difficulté de ce dispositif, c'est que ces données ne soient pas publiques. Donc aujourd'hui, on va avoir un échange d'informations d'administration fiscale à administration fiscale, mais une fois que l'administration fiscale a les données, déjà il faut qu'elle soit en capacité de les traiter, puis il faut qu'elle soit en capacité de montrer qu'il y a une forme d'abus de droit ou que ça peut être illégal pour avoir des poursuites. Et on sait que la frontière entre ce qui est appelé l'optimisation fiscale, que nous appelons de l'évasion fiscale, et de la fraude fiscale, ce qui est considéré comme illégal, elle est floue, elle est utilisée par les grandes entreprises pour payer le moins d'impôts possible et que la publicité de ces informations pourrait et devrait et serait un gage du contrôle citoyen, du contrôle des journalistes parce qu'aujourd'hui, parlementaires, journalistes, société civile, nous ne savons pas quelle est l'activité économique réelle de Google, d'Amazon ou même de Total en France parce que ces informations ne sont pas publiques. Un dernier mot pour appeler à la nécessité de la publicité de ce reporting pays par pays dans le langage technique, c'est que ça existe déjà pour le secteur bancaire. Et ça existe déjà d'ailleurs sous le leadership de la France qu'il avait adopté en 2013 avant une directive européenne. Malheureusement, quand la question s'est posée de l'élargir à l'ensemble des entreprises multinationales en France en dehors du secteur bancaire, cette été censuré par le Conseil constitutionnel, qui est aussi, dans le cas franco-français, une des clés du problème de la lutte contre l'évasion fiscale, à mon sens, puisque le Conseil constitutionnel a censuré pas moins de 16 mesures de lutte contre l'évasion fiscale depuis 2013. Mais si on met cette question de côté, la France peut jouer un rôle moteur, y compris dans les discussions qui se déroulent à l'échelle européenne, tout comme elle joue un rôle moteur sur les questions de taxation du numérique. Et malheureusement, on entend assez peu Bruno Le Maire sur cette question de transparence qui est pourtant essentielle.
Et ben on va poser la question à Bénédicte Perrol. Est-ce que selon vous, ces données pourraient, devraient être transparentes?
Alors, moi, dans mon rapport, ce que déjà je propose, c'est au niveau de l'Union européenne, il y a des discussions aujourd'hui. Il y a certains États qui bloquent aussi. Moi, j'engage à ce que la France, et je crois qu'elle tient cette position-là aussi, et une position ferme sur la nécessité de transparence de ces données, consolidées aussi parce qu'il y a un sujet de concurrence entre les différents États. Il faut que les données ne permettent pas de révéler non plus la stratégie des entreprises, etc. Et puis, moi, ce que je propose, c'est qu'éventuellement, si ça n'avance pas au niveau de l'Union européenne, on puisse réfléchir en France à une transparence. Alors, Manon Aubry évoquait les ONG, alors des ONG compétentes en la matière, qui connaissent bien le sujet, éventuellement des journalistes spécialisés aussi, voir de quelle manière on pourrait avoir ce contrôle citoyen. Je pense qu'il faut que c'est une réflexion que nous ayons, parce que c'est important, parce que c'est ensemble, c'est la société civile, avec les politiques, avec l'administration fiscale, ensemble que nous réussirons à parvenir à lutter contre cette optimisation et cette évasion fiscale. Je crois que la pression est importante, la pression politique.
Vous évoquez, Pascal Saint-Amand.
Ce que l'on aura, c'est pas de la transparence, parce que c'était pas l'accord qui a été obtenu, parce que l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, pour pas les nommer, étaient très hostiles à la transparence et ils étaient nécessaires dans le dispositif pour qu'au moins ça prenne place au niveau des administrations fiscales. Ce que l'on va faire en 2019, c'est qu'on va consolider tous ces reporting pays par pays et on va établir des statistiques. Alors ça permettra par secteur de voir quel est le profil de planification, pas le contrôle que Manon appelle de ses voeux, mais ça permettra quand même d'avoir une vision, une sorte de cartographie de quels pays sont utilisés pour l'évasion et comment ça se passe secteur par secteur. C'est pas de la transparence totale, mais c'est un pas de plus et on s'est engagé à cette transparence statistique en 2019.
Un mot, Manon, si vous me permettez là-dessus, je pense que ça va dans la bonne direction, ça permettra y compris de voir quels États sont utilisés. Mais l'avantage de cette transparence, parce que je me rends compte qu'on n'a pas bien expliqué ce qu'était le reporting pays par pays, c'est une obligation faite aux entreprises de publier. Donc la question est, est-ce que c'est public ou non, mais de d'écrire dans un rapport,
de déclarer aux administrations fiscales,
donc à voir si c'est public ou pas, des informations sur leurs activités dans chacun des pays où elles sont présentes. Par activité, on entend leur chiffre d'affaires, donc le produit de leur vente, leurs bénéfices, le nombre d'employés et leurs impôts payés. Et l'objectif est de voir si leurs activités sont connectées au volume d'impôts payés. Et l'importance pour nous de la publicité de cette information, c'est qu'on va pouvoir donner à voir précisément quelles activités ont chacune des entreprises, nommément que fait Total, McDonald's, etc. sur le sol français, et est-ce que leur volume d'impôts payé est à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, d'où l'importance de l'avoir à l'échelle de chaque entreprise, parce que les précédents scandales d'évasion fiscale l'ont montré. Aujourd'hui, seule la pression citoyenne sur ces grandes entreprises marchera là où la loi a montré ses limites. J'espère que la loi évoluera, mais il est important que ces grandes entreprises puissent aussi répondre et qu'on puisse s'attaquer à la réputation de celles qui ne jouent pas le jeu et ne payent pas leur juste part d'impôts.
Alors, en cas d'échec des négociations européennes sur cette taxe GAFA, taxe numérique, une taxe au niveau national en France est-elle possible? L'une des recommandations du rapport que vous avez rendu en septembre, Bénédicte Pérol, c'est de consacrer en droit français l'établissement stable numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est et est-ce que la France peut avancer seule sur cette question?
Alors déjà, je ne crois pas et je n'espère pas un échec européen. Je crois qu'on n'a pas le choix vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des prochaines échéances électorales. C'est un sujet au-delà, enfin qui va au-delà vraiment du sujet de l'optimisation fiscale. C'est un sujet vraiment politique et d'engagement vis-à-vis des Européens. Mais c'est vrai qu'il faut se préparer. La difficulté du politique, c'est de faire face au court terme, au moyen terme et au long terme. Et donc l'objet de ce rapport, c'était effectivement d'essayer de se projeter et dans un cas d'échec, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'OCDE qui avance aussi sur le sujet d'établissement stable virtuel. On voit que les négociations ont du mal à avancer. C'est difficile au niveau européen de se mettre d'accord. Alors au niveau international, ce sera encore compliqué, mais il n'empêche que la France, elle, à un moment donné, doit trouver des solutions pour essayer de capter cette économie qui se numérise. Parce qu'effectivement, c'est pas uniquement les entreprises comme qu'on connaît aujourd'hui, Google, Facebook, que nous voulons taxer, c'est juste qu'on veut prendre en considération aujourd'hui notre économie qui évolue et qui se numérise. Il y a effectivement, et on en parle là aussi depuis des années, hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé toute seule, de l'établissement stable virtuel qui viendrait qualifier une activité qui n'est pas forcément matériellement présente. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y aura des salariés, pas forcément parce qu'il y a des bureaux, mais parce qu'il y a des utilisateurs, parce qu'il y a peut-être un serveur, parce qu'il y a des contrats qui sont conclus, qu'on va pouvoir qualifier une activité en France sur la base de laquelle nous allons pouvoir mettre un impôt. Il y a quand même un problème, hein, il faut le souligner, c'est celui des conventions fiscales internationales. Parce qu'il faut être totalement clair vis-à-vis des Français, c'est-à-dire que si on on met ça au niveau national, on va se retrouver dans une situation où, si j'ai une relation avec un État membre, avec lequel, un État membre ou un État tiers d'ailleurs, avec lequel il y a une convention fiscale bilatérale, je n'aurai pas la même définition de l'établissement stable dans la convention bilatérale. Et en droit français, et comme beaucoup dans d'autres États membres, et État tiers, on a une définition de l'établissement stable qui n'est pas, qui ne sera pas celle de l'État français, et donc du coup, ça pourrait rendre ineffective cette modification nationale. Quoique, mais je ne vais pas faire trop de technique, moi je pense qu'il y a des dispositions dans la convention multilatérale que nous avons ratifiée, et notamment la clause générale anti-abus qui permet de mettre de côté la convention fiscale bilatérale quand mon objectif était justement de faire de l'optimisation fiscale, dont un de mes objectifs principaux était de faire de l'optimisation fiscale. Donc je pense que même en adoptant en droit national, malgré les difficultés que représentent ces traités bilatéraux, il y a des solutions grâce aux travaux de l'OCDE aussi, de cette clause générale anti-abus de la convention multilatérale.
Pascal Saint-Amand, d'un mot, on arrive vraiment au terme de cette émission, mais on voit que voilà, c'est extrêmement difficile de faire cavalier seul en matière fiscale. Quel regard vous portez peut-être sur les évolutions possible de ces nouvelles taxations?
Alors, il y a une bonne nouvelle relative, c'est que les États-Unis, qui sont si hostiles au multilatéralisme en matière fiscale, parce qu'ils ont passé leur réforme fiscale, ils veulent négocier pour dire qu'il faut mieux se répartir les droits d'imposer, ils changent complètement leur position, et donc enfin, on a la perspective d'un plan de travail commun, et je pense qu'en 2019, on pourra annoncer ça.
La perspective de négociation. Merci beaucoup Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Merci à vous Bénédicte Pérol, députée La République En Marche, et merci à vous Manon Aubry, responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale chez Oxfam. Il est 14h45 sur France Culture, l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. C'est l'institution imaginaire de la société de Cornelius Castoriadis que nous avons choisi aujourd'hui. Un ouvrage paru en 1975 et dans lequel Castoriadis critique la pensée politique marxiste et insiste sur la puissance créatrice de l'imaginaire collectif pour transformer la société. Et pour en parler, nous recevons Mireille Bruyère. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en duplex de Toulouse. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse 2, membre d'Attaque et des économistes atterrés. Alors d'abord, qui est Castoriadis, cet économiste, philosophe et psychanalyste grec né en 1922 et mort en 1997? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
Oui, effectivement, il passe son enfance en Grèce et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il adhère au Parti communiste, mais il se trouve très rapidement en but avec la frange stalinienne et menacé même physiquement par les staliniens et par les fascistes. Donc il va être marqué par cette première expérience. Il va fuir en France et il travaillera et il vivra en France jusqu'à la fin de sa vie. Donc je raconte cette première partie parce que effectivement son œuvre va être portée par le souci de dénoncer le totalitarisme quel qu'il soit, quelles que soient ses formes. Et on l'a connu pour une critique acerbe du libéralisme mais aussi du marxisme. Il fondera donc une revue qui a marqué les mouvements autour de 68 qui s'appelle Socialisme et barbarie.
Il l'a créé en 1948.
Absolument, et qui se terminera en 1966 et dans lequel on verra Jean-François Lyotard par exemple, Claude Lefort, Guy Debord pendant une courte période, donc qui a animé effectivement un collectif de personnalités intellectuelles de l'époque qui questionne la question non seulement du marxisme mais effectivement aussi du libéralisme.
Alors on va revenir sur cette critique du marxisme, Mireille Bruyère, mais d'abord est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de nous parler de ce livre, donc l'institution imaginaire de la société, et peut-être comment vous l'avez découvert tout d'abord?
Je dois dire que je suis dans une famille de personnes plutôt militantes dans lesquelles les pratiques étaient souvent questionnées, quoi que nous fassions. Et j'ai entendu souvent dans les discussions cette question d'instituer, d'instituant, donc de force instituante qui serait quelque chose d'émergent, qui vient en conflit de ce qui est déjà là, d'instituer. Donc cette conceptualisation un peu m'a bercée. Effectivement, quand j'ai voulu écrire ce livre qui questionne la productivité, je me suis bien rendu compte compte que le livre de Castoriadis était incontournable pour essayer d'avancer.
Alors après avoir critiqué le stalinisme pour son totalitarisme, puis démontré les faiblesses de la bureaucratie trotskiste, Castoriadis donc bâtit sa charpente sur la faillite du marxisme. Quelle est l'originalité de sa critique du marxisme qui constitue la première partie de son livre, L'institution imaginaire de la société ?
Oui, c'est dans le chapitre marxisme bilan provisoire qu'il a une critique très étendue en fait du marxisme tel qu'il est. Alors la première chose qu'il dit, c'est que pour lui, il n'est pas question de savoir si finalement l'Union soviétique est fidèle à la pensée de Marx ou pas. Il renvoie à Marx son propre argument en disant finalement la validité, l'évaluation d'une théorie, c'est l'impact que cette théorie a dans l'histoire. Et donc il regarde finalement ce que l'histoire et donc effectivement l'expérience de l'Union soviétique a fait du marxisme, et il essaye de comprendre dans la pensée de Marx qui est à l'origine de ces dérives totalitaires. Alors, il critique pas le marxisme comme le fait les libéraux en disant finalement le marxisme a établi un certain nombre de lois qui ne sont pas avérées, hein, la paupérisation d'une certaine manière la baisse tendancielle du taux de profit, etc. Ce que je vais critiquer dans le marxisme, c'est sa signification politique, et ça c'est très très important de comprendre que finalement la pensée de Castoriadis est une pensée qui met au centre la question de la signification qui va être en lien à l'imaginaire, je l'expliquerai tout à l'heure. Et en fait, fondamentalement, il dit dans Marx, il y a deux grandes choses. Il y a l'idée que finalement l'histoire se lirait comme la conséquence d'un développement autonome des forces productives, et donc la conséquence d'un déploiement de la raison, de l'industrie, de la science qui s'inscrirait dans les forces productives, hein, donc le développement de la productivité. Bon, puis il y a une autre explication qui est plutôt contradictoire, qui dit finalement ce qui fait l'histoire, c'est les luttes, et en particulier les luttes des classes. Et pour Castoriadis, en fait, la première explication est dominante et a été reprise dans l'histoire, et c'est celle-ci qui pose problème, en ce sens qu'en fait, c'est comme si on expliquait l'histoire par quelque chose qui est extérieur au social historique, et donc on verrait la classe des prolétaires comme étant l'objet d'un sujet de l'histoire qui serait la science et les techniques.
Pour Castoriadis, il faut également casser le mythe de la neutralité de la technique, ce que n'avaient pas fait les marxistes, qui étaient focalisés sur le renversement des rapports de production capitaliste.
Absolument. Pour Castoriadis, c'est ça, il le fait pas simplement dans le livre, il le fait dans un article qu'il a écrit pour l'Encyclopédie Universalis, qui s'appelle Technique, dans lequel il dit la technique n'est pas neutre. Effectivement, dans l'exemple trivial du marteau, on peut dire que le marteau peut être utilisé de manière très différente, mais la question qui nous est posée, c'est pas celle-ci. La question, c'est d'un système techno-scientifique, et ce système techno-scientifique est produit par le capitalisme dans les visées du capitalisme. Et donc, effectivement, on le voit à l'œuvre dans la plateforme, les évolutions actuelles de la digitalisation de la société montrent bien que ça va dans un sens plutôt d'une plus grande marchandisation plutôt que d'une libération, une émancipation de la société. Donc il critique aussi effectivement l'idée de la neutralité de la technique, parce qu'il dit qu'il ne s'agit pas de technique, il s'agit finalement de systèmes technologiques qui conditionnent les finalités.
Alors, dans une biographie consacrée à Castoriadis, l'historien François Doss estime qu'il est l'un des rares intellectuels à résister à la condamnation de la perspective révolutionnaire. Mais que signifie la révolution chez Castoriadis ?
La question révolutionnaire est posée non pas comme un programme pour lui, mais comme une exigence. Et cette exigence, elle se pose comme une exigence d'articuler effectivement la question des pratiques, des luttes et la question des significations politiques de l'histoire. Alors, à la base de sa réflexion sur ce que c'est que d'être révolutionnaire, il y a l'idée d'imaginaire social.
Ce qu'il développe dans la seconde partie de son ouvrage, l'imaginaire social et l'institution. Quel est cet imaginaire social ?
Alors, il cherche en fait à dépasser la vision des sciences sociales sur l'institution. L'institution étant l'objet principal des sciences sociales, en économie d'ailleurs comme en sociologie. Il cherche à dépasser la vision fonctionnaliste des institutions dans les sciences sociales. Les sciences sociales se posent la question de savoir à quoi servent les institutions, qu'est-ce qu'elles font à la société, etc. Et lui, il dit, bon, effectivement, toute institution a une fonction, répondre à certains besoins, organiser la famille, organiser la concurrence, organiser les marchés, par exemple. Mais elle ne s'y réduit pas. Les institutions sont portées par un imaginaire qui comme un ruisseau qui coulerait en dessous des institutions, continuent de la transformer et font l'histoire des institutions. Et ce ruisseau, comme il appelle ça, l'imaginaire radical, c'est l'instituant. Et c'est justement avec cette conceptualisation de quelque chose qui est toujours là, qui vient travailler de manière relativement silencieuse, inconsciente, les institutions, transforme les institutions. Alors, pour le pire comme pour le meilleur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour lui, cet imaginaire social, c'est ce qui fait l'histoire, mais c'est ce qui fait l'histoire dans le pire, par exemple Hitler et le fascisme et le nazisme, et aussi le meilleur dans les meilleures créations de l'humanité. Donc parce que justement, c'est la possibilité, c'est l'hypothèse que distingue, je dirais, l'homme du règne animal, c'est la possibilité de son imagination. Au centre de sa conception de l'homme, il y a l'idée que ce qu'il distingue des autres animaux, c'est que l'homme est capable d'imagination, c'est-à-dire de se donner ce qui n'existe pas. Et quand cette imagination, je dirais, s'agrège socialement, eh ben on a la possibilité de créer de nouvelles institutions. Et pour lui, ces nouvelles institutions, c'est le germe de la révolution, et c'est le germe aussi de la liberté humaine. C'est-à-dire que c'est une liberté avant tout comme construction collective de quelque chose de nouveau.
C'est ça qui est important à souligner, peut-être, c'est que cet imaginaire social, qui est donc cette puissance de création et d'organisation du monde, dépasse la somme des psychés individuelles et ne peut émaner que du collectif.
Alors, il y a une articulation dans la pensée de Castoriadis entre la psyché individuelle et les imaginaires sociaux. Mais effectivement, cet imaginaire, au final, va s'imposer à chaque individu, en ce sens que cet imaginaire va s'incarner dans les institutions. Il ne réduit pas les individus à ce déterminisme de l'imaginaire social. Il dit les individus sont pas que des individus, il y a aussi une psyché, ils sont aussi des sujets. Et là, il se distingue par rapport aux sciences sociales en général, il se rapproche de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose résiste toujours, non pas dans l'individu, mais dans le sujet, du côté de sa psyché, quelque chose est irréductible, et cet irréductible, c'est source de création. Source d'imagination par les fantasmes, mais finalement, peut-être aussi source de changement, plus généralement, source d'histoire.
Et dans votre livre, L'insoutenable productivité du travail, vous proposez une analyse des institutions du capital et du travail qui est directement inspirée de ce concept d'imaginaire social. Et la conclusion que vous en tirez, c'est que la productivité du travail est une source d'aliénation qui mériterait d'être questionnée politiquement.
Oui, j'ai essayé un petit peu de m'inspirer de cette pensée pour, d'une part, essayer de comprendre les dynamiques institutionnelles qui sont derrière nous, 30 glorieuses, et puis ensuite financiarisation, en posant l'hypothèse que ce qui a fait le compromis dit fordiste, et même au-delà, le compromis dans le capitalisme tel que nous l'avons connu, qui est organisé autour finalement du salariat, le salariat, pour moi, c'est un compromis autour de l'idée que ce qu'il fallait absolument préserver, c'est la productivité. C'est la productivité du travail, et donc, vous le savez, le salariat, c'est subordination contre garantie collective, les garanties collectives étant une autre répartition de la richesse créée par le travail, mais en laissant se déployer dans l'usine, dans les entreprises, etc., la recherche de la plus grande productivité. Donc, je fais l'hypothèse qu'effectivement, ce concept de productivité n'est pas questionné, doit toujours être là comme étant le fondement de la société de tout temps. Ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, cette productivité a de plus en plus de mal à s'incarner concrètement. La baisse des gains de productivité est au centre, en fait, de mon questionnement au départ, parce que ça rencontre de plus en plus le réel. C'est-à-dire que cette dimension imaginaire qui fait l'histoire du capitalisme rencontre de plus en plus les limites écologiques et anthropologiques, c'est-à-dire la capacité des êtres humains de travailler dans des usines de plus en plus aliénantes, même dans les services, on le voit avec la montée de la souffrance au travail. On touche les limites de cet imaginaire, et ce que je dis, c'est que finalement, pousser plus loin la productivité, c'est vouloir faire apparaître quelque chose d'imaginaire de plus en plus irréel, de plus en plus embuté avec les limites écologiques et anthropologiques, et c'est ça qui est insoutenable.
Pour conclure en quelques mots, Mireille Bruyère, à qui conseilleriez-vous ce livre et surtout peut-être pour quelles raisons faut-il le lire selon vous ?
Écoutez, ce qu'on entend un peu partout sur l'urgence écologique et sociale me paraissent montrer l'urgence l'intérêt de lire Castoriadis actuellement. J'ai écouté hier à France Inter un débat sur présenté par la journaliste en disant qu'est-ce que nous pouvons faire, quels sacrifices nous sommes prêts à avoir pour éviter la catastrophe écologique. Et très justement, quelqu'un lui disait, mais c'est pas de sacrifice dont il est question, mais c'est de changer les modes de vie pour vivre mieux. Et je pense que ça signe un petit peu la pensée de Castoriadis, c'est-à-dire ça dépend de la façon dont nous voyons, dont nous signifions ce qui est en train de se passer. Nous pouvons dire, effectivement, nous devons nous contraindre, nous empêcher dans les consommations, dans les modes de déplacement, etc. Mais nous pouvons aussi le voir d'une autre manière en disant « c'est une chance ». C'est une chance, ces limites qui apparaissent. C'est une chance pour vivre autrement et pour vivre mieux. C'est une autre signification que nous donnons effectivement aux limites.
Merci beaucoup Mireille Bruyère, maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse 2. Je rappelle votre ouvrage « L'insoutenable productivité du travail » publié aux éditions du Port de l'Eau. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on parle de l'économie de la création. Rendez-vous dès lundi à partir de 14h. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.